France Musique.
Bon week-end, cher Nicolas Lafitte, et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous et merci d'être de bon matin à l'écoute de France Musique. Ce matin, les coulisses de Fabrication Maison s'intéressent beaucoup au festival Présence, qui se déroule dans nos murs et sur notre antenne. Pour preuve, notre portrait, où nous recevrons le compositeur italien Ivan Fedele, ainsi que la chronique de la Maison Ronde de Marie Fauché, qui évoquera la jeune compositrice Clara Iannotta. Dans son reportage, Victor Triboulaspierre nous racontera sa tournée avec l'Orchestre National de France aux États-Unis. Puis à 8h30, nous retrouverons Jean-Yves Patte et ses fabuleuses archives. À 8h45, l'une de vos lettres dans Parlez-moi de musique. Et à 8h50, Question de cœur avec Sophie Janin. Nous avons de quoi faire ce matin encore.
France Musique.
Ivan Fedele, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie de ces compositeurs italiens que nous avons le plaisir de recevoir à l'occasion du festival Présence cette année. Un certain nombre de pièces que vous avez composées vont être jouées lors de ce festival.
Oui, notamment une création de Radio France, Lexicon 2, qui est, disons, deuxième étape d'un trajet, un parcours compositionnel qui va se terminer l'année prochaine avec une troisième lexicon. Et lexicon, pourquoi ? Parce que dans le 1 et le 2, j'utilise un vocabulaire ancien dans le premier. C'est-à-dire qu'on re-explore, mais de manière tout à fait recréative, certains archétypes de compositionnels du passé, comme le contrapoint, l'occhétus, et toute une série d'objets et d'outils de la Renaissance, mais à la lumière de la contemporanéité. Là, par contre, dans Lexicon 2, il y a une trajectoire entre l'harmonique, en passant par l'inharmonique, pour arriver à la saturation. Donc, c'est un autre type de lexicon. Le troisième sera sur les six leçons américaines d'Italo Calvino, dont les thèmes sont justement littéraires, la vitesse, transparence, etc., etc., mais qui peuvent bien être entendus, compris, exploités en termes de matière musicale, compositionnelle. Donc voilà, on peut expliquer cette création. À côté de ça, il y aura d'autres pièces d'orchestre et un concert de quatuor Prometeo, avec une pièce que j'ai écrite il y a très peu d'années en dialecte grico, qui est un dialecte du sud d'Italie de provenance grecque. Ils sont des chants d'amour et de mort. Ce sont les deux arguments dans lesquels cette littérature ancienne s'est produite dans le temps.
Ivan Fedele, nous allons donc ce matin tracer votre portrait en musique d'une certaine façon. Et vous parliez de retour dans le passé avec ce travail sur la Renaissance et sur son écriture musicale. Là, c'est un retour dans votre propre passé, votre premier choix musical.
Keep away.
J'imagine que cette musique de Led Zeppelin aura rappelé des souvenirs à quelques-uns de nos auditeurs. Led Zeppelin, pourquoi Led Zeppelin?
Mais à l'époque, j'étais adolescent et comme tous les adolescents, j'étais très fasciné par les rock. Pourquoi le Led Zeppelin plutôt que d'autres groupes? Ben, parce que je toujours trouvais que dans les Led Zeppelin, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une idée des timbres, de son. Il y avait aussi une façon d'imaginer le rythme qui n'était pas comme dans Black Dog tout à fait carré, mais un peu particulier. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, moi, j'étais élève au conservatoire. J'avais déjà eu mes premières expériences à la fois compositionnelles, mais même d'interprétation. La première pièce que j'interprétais en musique contemporaine, parce qu'à l'époque c'était contemporain, c'était les variations opus 27 de Webern, à quelques années plus que 30 depuis la première exécution de cette variation. Donc, parallèlement, je suivais avec beaucoup d'intérêt l'évolution du rock. Après, j'ai arrêté, disons, je l'ai regardé un peu plus de loin, mais toujours avec une affection due aussi à l'époque où cet amour est commencé. Jimmy Page a été toujours pour moi une grande référence. Je trouve que c'était peut-être le plus grand guitariste du rock.
Deuxième choix, Ivan Fedele.
Pierre Boulez et Rituel. Ce choix, c'est un choix à 360 degrés. Pourquoi ?
Parce que c'est un hommage, j'imagine, aussi.
Oui, c'est un hommage à Pierre Boulez, qui a dirigé plusieurs fois, à plusieurs reprises, des pièces à moi, mais surtout à l'homme compositeur, ce qu'il a représenté pour la musique contemporaine mondiale, à l'interprète. Dans Rituel, il y a un hommage aussi que Boulez fait à Bruno Maderna.
C'est... hommage à l'Italie, d'une certaine façon.
Oui, à l'Italie, et surtout à un homme qui venait de mourir, auquel beaucoup de jeunes compositeurs italiens doivent beaucoup, parce que lui, il était très généreux par rapport à la création des jeunes et la facilité, il évoquait et la promouvait. Voilà, donc... deux personnages tout à fait différents, mais avec une humanité forte.
Ivan Fedele, vous avez connu ce Milan dans lequel Boulez et Maderna ont distillé toute une école, toute une pensée musicale. Vous avez fait vos études dans cette ville qui est quand même incroyable pour la musique contemporaine, enfin pour la musique du XXe siècle en tout cas.
Oui, j'ai étudié dans une ville qui a accueilli de passage aux résidents pas mal de compositeurs étrangers à l'époque, surtout dans les années 50-60. Et j'ai même étudié la musique électronique dans le studio désormais un peu obsolète de la RAI, où par exemple Cage avait composé Fontana Mix ou d'autres compositeurs s'étaient produits. Voilà. Mais quand même c'était une expérience forte parce que les murs parlaient d'une histoire récente, mais que la technologie allait faire, oui, dépasser très vite.
Autre grande figure, j'imagine, pour l'italien que vous êtes, Luciano Berio. Nous écoutions un extrait de sa Symphonia. C'est aussi quelqu'un qui a compté dans votre développement de créateur ?
Absolument. D'abord, par l'analyse de ses partitions, parce que je l'ai connu en début des années 90, personnellement, et puis on a eu des rencontres assez fréquent avec lui. Oui, l'analyse de symphonie, par exemple. Une anecdote, je me souviens que quand on lui parlait de premier accord, on lui disait non, c'est pas un accord, c'est un timbre. Oui, il avait raison, parce qu'il l'entendait en tant que timbre, parce que pour lui, l'accord, c'était quelque chose de fonctionnel, qui venait d'un autre accord et qui allait à un autre accord, donc en établissant une relation fonctionnelle. Là, pour lui, cette façon de répéter de manière statique l'accord, c'était vraiment comme reproduire, vivre à son intérieur un timbre. Et Berlioz, je l'ai connu d'une manière incroyable. Je reçois un coup de fil dans mon studio et de l'autre côté, une personne me dit « Bonjour, Ivan Fedele. Oui, c'est moi, Luciano Berlioz. Bonjour. J'ai entendu une pièce à vous à l'IRCAM, l'enregistrement d'une pièce à vous, et je dois me féliciter avec vous parce que c'est magnifique, continuez comme ça, et voilà. Il accroche, au revoir, hein, il accroche. Tout après, 30 secondes, un autre coup de fil, c'est un grand ami à moi, qui aime faire alors je lui dis, c'était toi, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Alors je suis resté vraiment comme ça parce que j'ai cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie, n'est-ce pas? Mais depuis, j'ai demandé son numéro de téléphone, je l'appelais, on s'est vu, on a échangé beaucoup d'expériences ici, à présence aussi, à la fin des années 90, où vous lui avez consacré un portrait, j'avais une création, mon concerto pour violoncelle, orchestre, et je me souviens que j'étais en bas, parler avec le chef, et je suis monté, et là, j'ai vu Berlioz qui avait pris ma partition, il était en train de regarder des passages, donc j'ai dit, bon, ça l'intéresse. Non, on avait toujours, moi j'avais un énorme respect pour lui.
Quartetto, le deuxième et le troisième mouvement, per accorda. Il quartetto, c'est votre premier quatuor?
Oui, c'est mon premier quatuor et c'est l'œuvre qui ouvre mon catalogue. C'est-à-dire que j'avais écrit d'autres pièces, mais je voulais vraiment composer une œuvre qui pouvait commencer un catalogue. Et j'ai toujours adoré les cordes parce que... Moi, de formation, je suis pianiste. D'abord le son, mais aussi le fait pratique qu'un violoniste, un violoncelliste peut jouer son instrument à la maison et sur scène, ou dans l'orchestre, c'était quelque chose qui me fascinait. Moi, je ne pouvais pas amener mon piano. Et les pianistes doivent se contenter toujours du piano qu'ils trouvent. Son magnifique, mais vous savez, la relation qu'un pianiste a avec le toucher, c'est absolument personnel. Hein, et donc, chaque fois, on se trouve vis-à-vis d'un nouveau être, n'est-ce pas, avec lequel il faut rentrer en contact.
Mais Ivan Fedele, le quatuor à cordes a souvent été l'œuvre ultime pour beaucoup de compositeurs. Vous en faites votre première œuvre.
Oui. Et en fait, la gestation de cette œuvre a été très longue, bien que l'œuvre ne dure pas trop beaucoup. C'est une œuvre de 10 minutes, 11 minutes. Mais j'ai fait une première version et puis la définitive, ça m'a pris à peu près 2 ans, figurez-vous. Après, bien sûr, j'ai beaucoup évolué et même en vitesse d'écriture, l'idée, l'image musicale a pris forme dans des temps relativement plus courts. Aujourd'hui, j'ai plus que 150 pièces. Et j'écris 4 quatuors, un cinquième est en gestation, mais aussi quatuor avec piano, donc un quartet classique, et quatuor avec accordéon, quatuor avec voix, ce qu'on va entendre prochainement par le Prometeo et Valentina Colladonato, et dont je vous ai parlé sur des textes en grec.
Ivan Fedele, nous avons le plaisir de découvrir toute cette musique italienne grâce à ce festival Présence. Vous diriez qu'il y a une école italienne et il y a toujours une grande vivacité de la création en Italie.
Je pense qu'il y avait une école italienne jusqu'à il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on pouvait reconnaître un compositeur italien. Il y avait deux grands axes, n'est-ce pas ? Ceux qui faisaient référence à l'écriture de Charrino d'un côté et ceux qui faisaient référence à l'écriture de Donatoni de l'autre côté. Très peu à l'écriture de Berio, qui était plutôt internationale et atypique, si vous voulez. Maintenant, je crois que l'ouverture des frontières, le fait que beaucoup de jeunes Italiens vivent ailleurs et donc ils font d'autres expériences, ont fait en sorte qu'ils ne gardent que le passeport italien. Parfois, ils sont tout à fait insérés dans des goûts, des styles des pays où ils vivent. L'Allemagne, notamment, parce que l'Allemagne, oui, a disons, une approche à la musique pas unique, mais le mainstream allemand, c'est, on le reconnaît très, très, très bien. De toute manière, je crois qu'encore on peut parler de, pas d'école italienne, mais de style, si vous voulez, parce que, et ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a, à mon avis, une attention particulière au mouvement des lignes, et la superposition de plusieurs lignes, la vivacité de la pulsation rythmique, la couleur, le timbre. Je ne veux pas dire que d'autres compositeurs d'autres pays n'y fassent pas attention, bien sûr, mais l'insidite figure et le développement de cette figure est pour beaucoup de compositeurs un point de repère important.
Merci Ivan Fedele.
Merci à vous.
Et pour notre rubrique d'archives, comme nous sommes en plein festival Présence, nous vous avons retrouvé l'un des premiers enregistrements disponibles. Il date de 1992 et l'œuvre est une création mondiale signée Marc-André Dalbavy, Instance. Les interprètes en étaient le Chœur et l'Orchestre National de France, dirigé par Marc Foster. Victor Trébeau-Laspierre, bonjour.
Bonjour Dominique.
Alors les auditeurs vous connaissent certainement puisque vous êtes journaliste à France Musique et vous revenez tout juste des États-Unis où vous avez accompagné l'Orchestre National de France en tournée. 6 concerts dont Boston, Washington et surtout New York dans la mythique salle du Carnegie Hall.
Et oui, c'était le point culminant de la tournée, le Carnegie Hall de New York. C'est un peu le Saint Graal des salles de concert dans le monde. Et ça, les musiciens du National dirigés par Gianni Ligeti nous l'ont bien fait sentir dans la salle. Rarement, je dois le dire, rarement on aura vu l'orchestre aussi énergique et aussi impliqué. Le concert s'est ouvert avec le prélude de l'acte 3 des maîtres chanteurs de Wagner, en hommage à Kurt Masur, décédé il y a peu, et qui fut directeur musical de l'ONF de 2002 à 2008. Ensuite, le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, une pièce qui à elle seule a dû contribuer à remplir la salle.
Ah bon ?
Et oui, les New-Yorkais mélomanes sont en général très francophiles sur la côte est des États-Unis et veulent évidemment entendre le répertoire français joué par un orchestre français. Une spectatrice qui était d'ailleurs assise à côté de moi dans la salle m'a dit qu'elle est venue spécialement pour le son typiquement français des vents.
Wow.
Et notamment grâce à l'utilisation des bassons en français, les bassons français qu'on n'utilise guère plus qu'en France, je crois. Et pour la suite du programme, par contre, 2 pièces russes, plus de répertoire français, c'est peut-être un peu dommage. Le premier concerto pour violon de Shostakovich avec le soliste lituanien Julian Rocklin. Un concerto enflammé et hallucinant de virtuosité. Les 2800 spectateurs ont d'ailleurs applaudi à la fin de la cadence du troisième mouvement, alors que le morceau n'était pas fini. Un peu comme si, Dominique, on applaudirait à la fin d'un solo de jazz ou d'un air d'opéra italien.
Mais ça, ils n'hésitent pas les Américains pour ça, et c'est agréable.
C'est du
fait.
Chaud, c'est très expressif. Et après l'entracte, le National a conclu avec la 5e symphonie de Tchaïkovski. Une symphonie ample et puissante et qui a visiblement plu au public new-yorkais puisque celui-ci s'est immédiatement levé pour saluer la performance, une standing ovation. Et événement encore plus rare, Dominique, aux États-Unis, le public a réclamé un bis.
Ah oui ?
Et oui, ma voisine, toujours la même. Habituée des concerts à Carnegie Hall, m'apprendra que ce n'est pas quelque chose que font souvent les Américains. D'habitude, ils applaudissent et s'en vont tout de suite après la première sortie de scène du chef. Immense honneur donc pour le National et Gianni Ligeti qui ont joué le prélude de Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré en bis, et une soirée qui a comblé le maestro Gatti que j'ai rencontré juste à la sortie du concert dans sa loge. Bon, Gianni Ligeti, vous sortez de scène, un concert à Carnegie Hall, la mythique salle new-yorkaise. On se sent toujours dans un état particulier, j'imagine, quand on vient ici jouer dans cette salle.
Ah, bien sûr. C'est une des salles plus importantes du monde. Avant tout pour l'histoire, pour tous les grands musiciens qui a joué ici, les compositeurs. C'est vraiment une expérience inoubliable. Toutes les fois que je retourne à Carnegie Hall, c'est vraiment un rêve.
On sait que les tournées, c'est fatigant pour tout le monde, le décalage horaire et tout ça. Ce soir, il y avait une énergie particulièrement forte. On a senti les musiciens vraiment investis.
Je dois dire que, peut-être au contraire, j'aime beaucoup le monde de la tournée. Car il nous permet de jouer devant différents publics, dans des salles différentes. Et parfois, on trouve des acoustiques merveilleuses, comme ce soir, comme à Boston il y a quelques jours. Parfois, on trouve des acoustiques un peu plus difficiles. Et surtout, on doit considérer, dans les cas précis de l'activité de l'Orchestre National de France à Paris, que malheureusement, l'Orchestre National de France joue seulement une fois. Tous les grands orchestres du monde ont la possibilité de répéter dans sa ville 2 fois, 3 fois le programme. Et là, c'est dommage parce que d'habitude, à Paris, nous, on travaille 2-3 jours de répétition et tout s'est brûlé dans une soirée. Alors, qu'est-ce qui passe pendant les tournées? La possibilité de répéter le programme. Et ça, il devient très important pour une cohésion totale entre le musicien et surtout entre le musicien et son chef. On passe d'un une acoustique difficile, une acoustique beaucoup plus facile, plus riche. Et surtout, c'est très important pour moi d'avoir des rendez-vous avec différents publics. Mmh. Aussi, chaque ville, il montre une différente personnalité. Le public de New York, c'est vraiment un public international. On va jouer dans une autre ville, peut-être un peu plus petit. Tu as le public local qui d'habitude suivre l'orchestre local. Et là, on a la possibilité de porter notre héritage de musiciens latins, surtout pas seulement européens. Nous sommes, moi, je suis au sud de l'Europe, mais notre cousin français est le même, non? On est latin. Et c'est intéressant de cette mélange de cultures entre nous. Et surtout, quand on va présenter un programme comme cette tournée avec de la musique russe, il devient vraiment fascinant d'essayer de proposer musicale et regarder comment le public il va réagir. Jusqu'à maintenant, on doit dire que grâce à Dieu, tu vas bien. Et on est en moitié de notre tournée et demain, après-demain, le dimanche, on va terminer.
Victor Tribault-Laspierre, vous avez donc suivi cette tournée américaine, 6 dates dans 6 salles de concert. C'est toute une logistique, ce genre de tournée, et surtout c'est fatigant pour les musiciens, non ?
Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir vivre au même rythme que les musiciens de l'Orchestre National de France. Pendant 5 jours, je les ai rejoints en cours de route pour le premier concert à New York. Ils étaient déjà en place depuis 4 jours, ils ont fait Boston et Ottawa juste avant New York. Et pour commencer, j'ai aussi pu expérimenter le décalage horaire. Et
oui,
ça c'est déjà extrêmement fatigant. Alors il faut assister au concert le soir qui commence à 2h du matin heure française et qui va se terminer à 4h30. Bon, pour moi ça allait, Dominique, j'étais confortablement installé.
Pas de violon, pas de contrebasse.
Non, ça a été. Mais par contre pour les musiciens, eux, c'est plus dur parce qu'ils doivent rester extrêmement concentrés, surtout avec le concerto de Shostakovich qui est une pièce très très virtuose et qui demande beaucoup de
concentration.
Et ça, c'est assez compliqué. Ils étaient nombreux à me le dire, les musiciens. Une tournée, ce sont vraiment des moments fort et génial à vivre, mais ça me demande beaucoup d'efforts physiques. Et tous les jours se répètent, on part de l'hôtel le matin, on voyage la journée, on arrive dans la salle de concert dans l'après-midi pour un raccord, on s'habille, on fait le concert, on se déshabille, on prend un bus pour aller à l'hôtel et on recommence le même programme le lendemain. Et oui, entre-temps, il faut trouver des instants pour déjeuner, dîner, il faut savoir se reposer. Alors cette tournée n'était pas la plus fatigante que le National ait faite. Dans les années 60-70, l'orchestre pouvait partir 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois pour la plus longue. Je crois que c'était en Amérique du Sud, 60 concerts. Et là, ça relève vraiment de l'exploit. Heureusement, de temps en temps, il y a des trous dans le planning. Les musiciens les plus jeunes en profitent pour aller se balader, visiter des musées, faire du shopping. Par contre, les musiciens les plus anciens, eux, savent qu'ils doivent se faire se reposer pour tenir le coup jusqu'à la dernière date. Et on sent l'expérience parce que chez les musiciens les plus jeunes, ils étaient nombreux. Moi, j'ai pu les voir à l'entracte, par exemple, d'une des concerts à Washington. C'était dimanche 31 janvier, voilà, si je ne me trompe pas dans les dates. Et bien, ils faisaient la sieste pendant l'entracte, ces musiciens.
Ils étaient
épuisés, heureux et honorés de pouvoir jouer dans autant de belles salles, mais fatigué par les efforts physiques et mentaux que cela demande. Il y avait donc de la légèreté et un vrai bonheur à l'heure de reprendre l'avion pour Paris, de retrouver son quotidien, ses proches, son lit. Mais ce sera de courte durée, Dominique, puisque l'ONF est parti hier en tournée. Jusqu'au 16 février, ils sont en Autriche.
Victor Triboulaspierre, on le sent, c'est une expérience quand même qui vous a marqué. On ne vit pas ça tous les jours dans la vie d'un journaliste musical en particulier. Qu'est-ce que vous retirez un petit peu comme souvenir fort, comme moment fort de cette tournée d'Orchestre National aux États-Unis?
Premièrement, je dois dire que c'est assez fascinant d'observer l'énorme machine qui est une tournée. 98 musiciens qui se déplacent tous ensemble, qui doivent être tous prêts à la même heure. La logistique des instruments qui voyagent par camion, qui doivent être en place avant l'arrivée des musiciens. On ne se rend pas toujours compte, c'est vrai, quand on assiste à un concert, notamment des orchestres qui viennent ici à Paris, il faut savoir que ça demande souvent 2-3 ans de préparation pour seulement 2 heures, 2 heures et demie de concert.
C'est la musique.
C'est la dure vie de la musique et des musiciens. Et alors, eux, les musiciens, ils me l'ont bien dit, et ça je l'ai bien senti pendant la tournée, qu'ils adorent ça, la tournée, parce que ça leur permet de se retrouver entre eux, de renforcer la cohésion du groupe, la cohésion avec le chef. Ils me l'ont tous dit, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir doubler les concerts, comme c'est le cas pour l'Orchestre de Paris, notamment. Alors pendant une tournée comme celle-ci, c'est bien différent. Ils ont pu jouer le même programme 6 fois de suite, et c'est assez rare pour eux de pouvoir travailler autant en profondeur des morceaux. Et ça se ressent depuis la salle, puisque l'orchestre a été formidablement bien accueilli, principalement à Boston, New York et Washington, où les musiciens et Daniel Ligeti ont eu droit à des standing ovations. Et pour ce qui est de sa composition à ce public américain, il faut dire qu'il ressemble assez à le public qu'on voit en France ou en Europe. Il est plutôt âgé, plutôt des gens qu'on sent d'être dans une classe sociale plutôt aisée. Ils sont peut-être un peu plus chic qu'en France, des dames avec des belles robes bien dorées, avec des paillettes.
On s'habille pour aller au concert.
Voilà. Pas beaucoup de jeunes dans la salle, malheureusement. Un peu plus à New York, peut-être avec un public un peu plus mixte. Par contre, ce qui est vraiment différent de la France, ce sont les salles. Les salles de concert qui sont très différentes. Elles sont toutes gigantesques, plus de 2500 places en moyenne. Et la palme revient à celle du Kennedy Center à Washington. Donc c'était la dernière date de la tournée. Un gigantesque complexe de 7 salles différentes, dont un opéra de 2300 places avec toute la machinerie nécessaire. Le Kennedy Center qui est aussi le lieu de résidence du National Symphony Orchestra qui accueille plus de 2000 concerts, opéras et ballets par an. C'est le gigantisme à l'américaine. D'ailleurs, on va écouter Emmanuel Kurt, le percussionniste, l'un des percussionnistes de l'Orchestre National de France, qui va nous parler du public américain.
On va dire, si on regarde la structure de la tournée, c'est le rendez-vous, c'est le milieu de la tournée, on a fait Boston, grande salle, et puis les organismes commencent à s'habituer, les décalages horaires se sont estompés, et puis c'est vrai que quand on arrive à New York, enfin, vous l'avez vécu, c'est électrique, on n'a pas envie de se coucher, on a envie de courir, de marcher, de visiter, et donc là on arrive sur scène, on est comme des fous, quoi. Là on va bien dormir ce soir, mais on est quand même comme des fous, ouais. Donc on donne tout effectivement.
Depuis la scène, avec les différents concerts que vous avez faits depuis votre arrivée ici aux États-Unis, est-ce que vous sentez une différence par rapport au public français ou au public européen? Est-ce que on sent quelque chose quand on est musicien? Est-ce que les Américains se comportent différemment, entre guillemets?
Oui, forcément, dans leurs applaudissements. Par exemple, vous avez vu, ils sont tout de suite très euphoriques, très démonstratifs. Et paradoxalement, ça s'arrête assez vite après. Tandis qu'en France, quand les gens aiment, ça peut durer très longtemps. Vraiment, quand tu dis moyennement, on le sent aussi. Mais sinon, c'est vraiment, il y a plus de Méditerranéens dans le sang français. Après, la deuxième différence, c'est qu'ici, ce sont des très grandes salles. À Radio France, on a une salle plus petite, plus intime, mais avec beaucoup plus de proximité du public. Donc, on sent le public loin ici. Mais quand ils crient, c'est vraiment des fans. C'est vraiment les fans de basket, quoi. C'est extra. Donc il y a beaucoup de spontanéité aussi. Parce que c'est vrai que, par exemple, à Boston, ça criait, puis ça s'arrêtait tout de suite. Ici, à Carnegie, normalement, il y a très peu de bis. Et bon, voilà, on l'a eu. Le soliste l'a eu aussi en première partie. Le concerto qu'il a fait, c'était quand même le moindre des choses. Non, mais c'était vraiment super, vraiment super.
Merci Victor Tribolas-Pierre pour ce témoignage qui nous a permis de voyager un petit peu avec vous aux États-Unis. Et puis on vous retrouve toute la semaine dans la matinale.
Absolument, c'était un plaisir. Toute la semaine à 7h12 dans la matinale de Vincent Josse.
Dormez bien alors d'ici là. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors, le festival Présence s'achève demain dimanche, Marie, et vous nous faites ce matin le portrait d'une jeune compositrice, Clara Janota, dont la pièce Troglodyte Angels Clang By a été créée mercredi dernier au studio 104 de la Maison de la Radio par l'ensemble 2E2M.
Clara Janota a une recherche qui évoque par certains aspects celle d'autres compositeurs de sa génération. À une époque de bruit, d'envahissement sonore, de stimulation presque constante de nos oreilles, eh bien la musique d'un certain nombre de compositeurs, de jeunes compositeurs même, tourne autour du silence. Clara Janota en fait partie. Elle raconte une petite histoire toute personnelle à ce sujet. Sa mère a été malade d'une maladie qui a transformé sa voix, si bien que Clara Janota et toute sa famille ont dû apprendre une nouvelle forme d'attention. Il devait se concentrer sur ses lèvres, sur ses attitudes même, ses expressions pour finalement l'entendre, la comprendre. Et c'est à l'appui de cette expérience que Clara Janota invite les spectateurs à venir vers la musique, à lui consacrer une attention nouvelle.
Un extrait de Aphone de Clara Janota, une pièce qui date de 2011.
Un mélange de borborygme, de brefs sursauts, d'entrelacements, de résonance, d'acidité aussi. Pour Clara Janota, la musique doit se voir. Elle parle de chorégraphie des sons plus que de composition. Et sur scène, les musiciens ont souvent beaucoup d'objets autour d'eux à faire résonner, pas seulement leurs instruments. Il y a une recherche de mise en scène de la musique. Comme si la musique des gestes était aussi importante que celle des sons. Un jour à Freiburg, elle raconte qu'elle a été saisie par les cloches de la cathédrale. Le mouvement de balance et surtout la résonance, les harmonies qui s'en échappent et qui lui évoquent une boîte à musique. Ces harmonies qui traversent les époques depuis des centaines d'années et à laquelle dans notre agitation quotidienne, on ne prête pas attention. Clara Janota isole ces résonances du tohu-bohu et elle nous donne à entendre une sorte de reste de son de cloche, ce qu'il y a au bout de la résonance. Clara Iannotta est très attentive au son du quotidien, de la rue, de la nature. Presque toutes ses pièces sont issues d'une expérience sonore du quotidien, les cloches ou encore le vent qui agite sur son passage des objets qui résonnent.
People here go mad, they blame the wind, de Clara Iannotta, interprétée par le trio Catch, Marie Fauché.
Ici donc, les gens deviennent fous, ils accusent le vent. Ce titre est extrait d'un poème de Dorothy Molloy. Cette écoute sensible de Clara Iannotta, des petits sons du quotidien comme les cloches ou l'effet du vent, l'amène à la rencontre d'un questionnement plus profond sur l'existence. Et la poésie de l'Irlandaise Dorothy Molloy l'accompagne depuis plusieurs années. Cette femme qui est décédée en 2004 d'un cancer et qui a inscrit sa maladie dans sa poésie, attentive à son corps qui progressivement l'abandonnait. La pièce de Clara Iannotta créée mercredi, Troglodyte Angels Clung By, s'inspire des poèmes de Dorothy Molloy.
Un extrait de Troglodyte Angels Clung By de Clara Iannotta par l'ensemble 2E2M que dirige Pierre Houllier.
Et donc on pourra entendre sur France Musique dans son intégralité cette pièce de Clara Iannotta créée au Festival Présence mercredi dernier. Sa diffusion sera le lundi 29 février à 20h dans les lundis de la contemporaine d'Arnaud Merlin. Et puis je signale également la sortie d'un disque Clara Iannotta A Failed Entertainment aux éditions Robert Zanck, dont on a entendu ce matin quelques extraits.
Très bien, les indications sont à retrouver sur le site de l'émission Fabrication Maison sur francemusique.fr. Merci Marie Fauché.
Merci Dominique.
Agenda. Il se passe plein de choses ce week-end à la Maison de la Radio. Tout à l'heure à 13h, Gaëlle Le Gallic, dans son émission Génération Jeunes Interprètes, reçoit les élèves de la classe de clarinette de Nicolas Baldeyrou au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, ainsi que le duo que forment Charlotte Goulot au piano et Irène Duval au violon. Gaëlle compte sur vous. Dimanche à 11h, faites découvrir la musique d'aujourd'hui aux plus jeunes de vos connaissances avec le formidable concert que propose le Festival Présence. Un concert très joyeux, plein de cris d'animaux et de mots bizarres que chantera Donatienne Michel Dansac, accompagné par l'ensemble 2E2M. Un rendez-vous qui réjouira nos futurs mélomanes aux oreilles toujours ouvertes. Concert jeune public au studio 106 à 11h. Et puis à 16h, ce sont les amoureux qui sont à l'honneur pour la Saint-Valentin. Sur une idée de Sophie Janin, la maîtrise invite pour leur premier concert en France Matthew Ford et son trio. Entre mots et chansons d'amour de Nat King Cole à Frank Sinatra, en passant par George Gershwin, Sophie Janin dirigera son cœur de jeune fille dans un répertoire tout en tendresse.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Jean-Yves, ce matin, alors c'est un peu tôt, mais vous m'emmenez quand même au concert.
Oui,
moi et les auditeurs d'ailleurs.
Au concert et aux frontières du réel.
Oh, c'est formidablement
si
dit.
Nous avons retrouvé, vous vous souvenez, la petite chose, la petite machine, on ne savait pas à quoi elle servait, c'est une machine à remonter le temps.
Quelle petite machine?
Vous savez, la boîte dans laquelle on s'installe, et puis il y a des cadrans, on choisit l'année, on a choisi 1931.
Ah.
Et nous avons choisi le Théâtre des Champs-Élysées.
Quelle bonne idée. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe?
Eh bien, nous sommes invités pour la première fois, c'est une première mondiale, à faire un direct décalé de juste quelques dizaines d'années. Donc, écoutez, le public arrive. Alors voilà, Dominique, le public est là. Nous sommes installés. Il y a du monde. Nous sommes installés dans une cabine provisoire au Théâtre des Champs-Élysées. Et vous allez peut-être nous présenter ce concert. Il s'agit de la Symphonie des Psaumes, je crois.
C'est cela même d'Igor Stravinsky, ce compositeur toujours un peu polémique.
Mais révolutionnaire.
Révolutionnaire, mais qui finalement attire les foules.
Stravinsky, toujours plébiscité ou hué, parfois chahuté par le public parisien, comme peut-être l'année dernière, vous vous souvenez, en 1930 à Bruxelles, lors de la création de cette symphonie des psaumes. Mais j'aperçois des frémissements en coulisses. Le maître arrive. C'est des frémissements. Oui, c'est bien ça, le maître est là.
Le concert va commencer alors?
Je crois.
C'est l'orchestre Walter Straram, le chœur Alexis Vlassov sous la direction du compositeur.
Nous sommes en direct du TCE en 1931.
Thank you.
C'était donc l'Allegro symphonique de la Symphonie des Psaumes d'Igor Stravinsky dans l'interprétation de l'orchestre de Walter Straram, le chœur Alexis Vlasov, sous la direction du compositeur, c'est-à-dire d'Igor Stravinsky. Un disque Columbia Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 1931. Une œuvre très applaudie, Jean-Yves
Une œuvre très applaudie, mais en fait, j'ai entendu que parfois Stravinsky avait été chahuté. Regardez, écoutez bien maintenant. Voilà, c'est ça la magie du faux Dirac, c'est qu'on peut choisir Bad End ou Happy End.
Vous êtes en train de réécrire l'histoire, Jean-Yves Pat, je le sens.
Je fais ce que je veux.
Pas complètement. Alors là, c'est quoi? C'est une réaction...
Alors, c'est une réaction fâchée, comme vous pouvez l'entendre. Ce qui était amusant, c'est qu'on a fait donc un faux direct parce que il y avait à l'époque des disques où on pouvait entendre les bruits de public qui arrivent, des applaudissements polis en attendant en chef, des applaudissements frénétiques si l'œuvre a plu et un chahut si l'œuvre n'a pas plu.
C'était donc ce sont les
bruitages.
Voilà, les premiers disques de bruitage.
Voilà, destinés aux radios, au cinéma ou au théâtre.
Et d'ailleurs, ils ont un nom très amusant, ces disques.
Oui, alors là, ils s'appellent Scoladisc, mais on les trouve aussi sous les labels Lumen ou Gramophone, la voix de son maître.
Vous en avez d'autres, des petits bruitages comme ça?
Plein.
Vous nous en ramenez?
Oh bah, avec plaisir.
Alors, à la semaine prochaine.
Par exemple.
Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Marie-Paul Largilly, une histoire qui se passe en 1978. Je monte les escaliers extérieurs qui mènent à la porte d'entrée de notre maison dans ce joli petit village corse, lorsque dès la première marche, qui en compte une dizaine, des notes de musique me parviennent. Je souris en reconnaissant celle du 78 tours que j'ai acheté il y a une quinzaine de jours et que ma fille aînée Christine, 17 ans, écoute en boucle depuis. Il s'agit de Carmen de Georges Bizet, enregistrement de 1964, sous la direction de Georges Prêtre, avec dans le rôle principal Maria Callas. J'en conclus que ma fille est à la maison depuis peu, à moins qu'elle ne l'écoute pour la seconde fois, ce qu'elle fait souvent. J'entre dans le salon, je l'embrasse en lui demandant de baisser le son. Maintenant, Valère, 12 ans, sort de sa chambre. Pendant la préparation du repas, des bribes de conversation me parviennent depuis l'autre pièce. J'ai tellement l'habitude de ces sujets que j'en connais les réparties et ça ne manque pas. Avec ta musique classique, tu me casses les pieds et en plus c'est maman qui achète tes disques, alors que j'achète les miens avec mon argent de poche et je peux pas les écouter quand je veux parce que tu as toujours la priorité. Pour ce que tu écoutes, lui répond sa sœur. C'est très bien ce que j'écoute, tu ne veux rien entendre. Que ta musique ancienne. Vis avec ton temps. Pfff, la musique yéyé. Quoi, c'est de la musique moderne. À table, je m'exclame afin de couvrir leurs échanges. Nous déjeunons en silence, chacune de nous dans ses pensées. Nous avons toujours écouté de la musique classique et je m'interroge sur l'attrait de ma petite Valère pour la variété. Je romps le silence. Bon, ce soir nous fêtons ton anniversaire avec papa, ma petite Valère, 13 ans déjà. Un oui boudeur arrive. Mais cette année nous allons le fêter aussi ce midi. Ah bon, pourquoi? Tu verras, va donc me chercher mon sac dans le salon s'il te plaît. Elle revient, me le tend. J'en sors une pochette et je la lui présente. C'est pour toi et joyeux anniversaire. C'est un petit rectangle plat enveloppé d'un papier cadeau. Elle arrive rapidement à entrevoir la pochette d'un disque. Ça alors ! Et Claude François en plus, tu te moques ? Pas du tout. Ça alors ! S'exclame-t-elle encore. Elle lit à haute voix les différents morceaux de musique proposés. Incroyable ! Tout ce que j'aime ! Magnolia's Forever ! Elle tourne le disque Eliphas B. Et je t'aime tellement ! Elle ne croit pas vraiment à ma sincérité. Pourquoi tu me l'offres maintenant ? Tout simplement pour que tu puisses l'écouter cet après-midi avec tes petites voisines que tu as invitées pour ton anniversaire. Nous l'écouterons aussi avec papa ce soir. Mais maintenant, juste toutes les trois. Elle s'approche de moi et m'embrasse. Mon regard croise celui de Christine, avec qui des négociations secrètes et délicates, engagées depuis plusieurs jours, ont abouti à un accord. Pour illustrer le souvenir musical de Marie-Paul Largilly, nous avons retrouvé l'enregistrement de 1964 dans lequel Maria Callas chante le rôle de Carmen de Bizet sous la direction de Georges Prêtre. Et puis bien sûr après, vous aurez reconnu Claude François. Cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, alors n'hésitez pas à prendre la plume et à nous raconter l'un de vos grands moments avec la musique et je me ferai une joie de lire votre courrier à l'antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Thank you. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour Dominique.
Alors, tout ce mois de janvier, nous avons évoqué un petit peu le travail qu'on peut faire pour aborder différents styles de musique. Il y a tout un répertoire énorme pour les chœurs que nous n'avons pas encore abordé. C'est le répertoire romantique. Il y a vraiment matière.
Ah oui, ça fait partie du plus grand répertoire, je pense, du chœur de Radio France depuis sa création.
Et un peu dans toutes les langues et dans tous les pays, au moins d'Europe.
Absolument. Après, c'est vrai qu'on est très liés, nous, par notre histoire et notre héritage, au répertoire romantique allemand.
Mmh. Mais vous aussi au répertoire choral du Nord, des pays
oui,
du Nord.
Absolument. Oui, oui.
Comment est-ce qu'on aborde le répertoire romantique? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quand on fait travailler des chœurs?
Eh bien, c'est tellement vaste comme sujet,
oui,
donc je vais essayer d'être concise. Mais je crois que tout d'abord, il faut regarder chaque compositeur et même chaque œuvre au sein de la production de chaque compositeur différemment et individuellement. Par exemple, quand on aborde une œuvre de Brahms, il est important de connaître non seulement sa musique de chambre, sa musique symphonique, comment il aborde son écriture instrumentale, comment il écrit ses lieders pour voix seule, mais il faut également connaître des choses sur lui, c'est-à-dire son intérêt pour la musique baroque, pour l'écriture contrapuntique. Il y a tout un univers à respecter et à découvrir en même temps. Sa musique chorale, que ce soit des pièces a cappella ou avec orchestre, la texture pour les chœurs est aussi raffinée que sa plus fine musique de chambre. Donc c'est à la fois une opération délicate et en même temps il y a une largeur à chercher. Donc c'est une texture qui est fragile souvent, elle ne supporte pas qu'on appuie sur des notes, qu'on soit fragile au niveau de l'intonation, qu'on soit pas sûr de la direction de la phrase. Tout est mouvement, tout avance dans un grand récit et à l'intérieur de ce grand fleuve, des petits ruisseaux coulent également. Et où il faut respecter le trajectoire de chacun et le rapport entre eux.
On a l'impression que vous êtes un pilote, pilote d'un grand bateau, d'un grand navire, et qu'il faut qu'il reste à flot. On en a un très bel exemple de ce travail dans ce magnifique Requiem de Brahms que vous avez enregistré pour le Festival de Saint-Denis. Ça a été un travail très riche, je crois.
C'était un travail magnifique parce que j'avais la grande chance et en même temps l'inconfort, on va dire, de retrouver le chœur de Radio France en fin de saison quand les chanteurs sont extrêmement sollicités, où il y a un risque vers la fatigue vocale. En même temps, c'est une œuvre qu'ils connaissent très très bien. On n'avait pas beaucoup de temps de le préparer, donc il fallait tout de suite essayer d'imposer un rythme de travail à la fois élevé, mais qui permettait aussi d'éviter la fatigue vocale et physique des chanteurs. Et c'est une musique dont on parlait de sa largeur qui peut être extrêmement épuisante à chanter, surtout quand on arrive comme ça en fin de saison. Et c'est une très longue œuvre pour le chœur. Et ça termine pas non plus par aller du plus au plus facile. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très contrasté. Et enfin, un mouvement extrêmement lent, soutenu. Ça demande vraiment toutes les compétences du chanteur pour pouvoir réaliser ce genre d'œuvre. Et j'avais adoré l'expérience parce que je voyais l'outil magnifique qui était le chœur de Radio France et aussi leur disponibilité et leur volonté de travailler vraiment très profondément dans cette esthétique.
Merci Sophie Jeannin.
Merci.
Pour illustrer les propos de Sophie Janin, nous écoutions un extrait du Requiem allemand de Johannes Brahms dans l'enregistrement réalisé en 2015 pour le Festival de Saint-Denis par l'Orchestre National de France, le Chœur de Radio France, tous placés sous la direction de Daniele Gatti. Sophie Janin, que vous pourrez d'ailleurs retrouver cet après-midi dans l'émission À pleine voix de Karine Le Bail à 16h. C'est passionnant. Enfin, si vous gagnez les places que Fabrication Maison vous offre, mercredi à 19h, vous pouvez venir écouter le Chœur de Radio France dans le grandiose Requiem de Maurice Duruflet, avec Yves Castagnet à l'orgue du grand auditorium de la Maison de la Radio. Les chanteurs sont dirigés par Florian Elgat. Pour gagner des places pour mercredi 19h à l'auditorium de la Maison de la Radio, il vous suffit de vous inscrire sur le site de Fabrication Maison sur francemusique.fr. Et voilà, c'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Frédéric Potry et de Marie Jaworski. À très vite et très bon week-end à vous.